le dossier de Marie-France Martel.
Marie-France qui a passé une bonne partie de la journée au palais de justice de Sherbrooke avec, entre autres, ce qui était attendu, le verdict concernant Philippe Benoît Lessard et la juge Élodie coupable.
Coupable d'agression sexuelle d'une adolescente de 14 ans. Je vous rappelle les faits. On avait couvert le procès de Philippe Benoît Lessard. Lui, il s'est introduit en pleine nuit dans le logement de la victime, secteur Est de Sherbrooke, en novembre 2016, pour y commettre des attouchements sexuels. Il est entré dans la chambre de la jeune fille qui dormait et là, il lui a touché les parties intimes, a tenté de baisser ses pantalons. Il s'était sauvé en courant. Il y a des témoins qui avaient dit avoir vu un homme louche, barbu, corpulent, qui correspond à la description de Philippe Benoît Lessard, tout près de l'immeuble. Également, la jeune fille qui avait fourni une description d'un homme costaud.
Oui.
Et là, il y avait plusieurs éléments de preuve qui ont été présentés à la juge Claire Desjean. Et on en avait parlé, Martin, de cette trace de pas.
L'empreinte.
Oui, prélevé sur le plancher du logement, une empreinte qui était possiblement la même que celle de Philippe Benoît Lessard, une chaussure particulière, d'une taille particulière. Et là, la juge Claire Desjean a dit « J'ai considéré finalement l'ensemble de la preuve et tout converge vers la culpabilité de Philippe Benoît Lessard parce qu'en plus, il était revenu sur les lieux après l'agression et les témoins avaient dit « C'est ce véhicule qu'on a vu quitter rapidement les lieux ». Et on parle, Martin, dans ce dossier-ci, d'une preuve circonstancielle. Et pour les gens qui se posent la question « Qu'est-ce que c'est qu'une preuve circonstancielle? », je vous invite à écouter Maître Joannie Saint-Pierre du ministère public qui nous donne des explications.
Il y a plusieurs façons en droit criminel dans un procès de faire la preuve, soit une preuve qui est directe, donc des gens qui auraient vu la commission de l'infraction et qui pourraient dire « j'ai vu cet homme-là, c'est cette personne-là qui a commis l'infraction », ou une preuve qui est circonstancielle, donc une conjoncture de faits qui permettent d'en arriver à une conclusion logique, qui est la seule possible dans les circonstances. Alors, le jugement de la juge a fait état de la jurisprudence applicable. On n'avait pas de preuve qui était complètement directe. Personne n'avait vu l'infraction autrement que la plaignante. Et au niveau de l'identité, donc, c'est une conjoncture de faits qui déterminait que c'était M. Benoît Lessard qui avait commis l'infraction.
Et Philippe Benoît Lessard, Martin, il n'avait pas témoigné lors de son procès.
Et donc, ça, c'est important de la rappeler.
C'est important parce que la juge Desjean a dit le fait que vous ne témoigniez pas à votre procès, et c'est tout à fait dans le droit de l'accusé de ne pas parler, de ne pas donner d'explication, mais ça fait en sorte que le tribunal a été privé d'explications qui étaient susceptibles peut-être de soulever un doute raisonnable. Mmh. Dans ce cas-ci, on avait une preuve circonstancielle. Et là, ben, en ne parlant pas, il y a un plus grand risque que l'accusé soit trouvé coupable, ce qui était le cas aujourd'hui. Et ce qu'elle a dit, c'est que les témoins qui ont été entendus, ils étaient tous crédibles. Mmh. Ils convergeaient dans la même direction à quelques différences près. Mais elle dit, pour moi, ça mérite d'être considéré. Donc, ça ne fait aucun doute que c'est Philippe Benoît Lessard qui était dans le logement de la victime ce soir-là. Et on a fait réagir tout de suite après son avocate, Maître Stéphanie Côté, après le verdict rendu à l'endroit de son client. Voici ce qu'elle avait à nous dire.
En fait, pour l'instant, on prend acte du verdict de culpabilité de monsieur. On va en prendre connaissance à tête reposée, voir s'il y a d'autres procédures qui seront prises.
Possibilité d'aller en appel, ce sera regardé?
Ça sera regardé certainement. Par contre, c'est un jugement qui a été lu assez longuement, qui a été étoffé. Il va falloir en prendre connaissance avant de prendre des décisions subséquentes.
Parce qu'on s'entend qu'il y a toujours des stratégies de défense. Hein? On entend souvent Maître Rancourt nous parler de ça le matin dans Quel Estrie se lève. Et dans le cas qui nous concerne, il y avait le fait probablement qu'on misait beaucoup que c'était une preuve circonstancielle et que si on amenait monsieur à la barre des témoins, que finalement ça pourrait nuire à sa cause plus que l'aider.
C'est toujours un couteau à double tranchant parce que l'accusé va être contre-interrogé.
Ça semble être un peu la mise qu'a déposée en quelque sorte ou a pensé l'avocate de la défense. En tout cas, c'est ma prétention.
Parce que la preuve était circonstancielle, effectivement. Personne n'avait vu réellement à part des ombres.
Ouais.
Et là, il faut préciser, Martin, dans ce dossier-ci, qu'il y a un rapport présententiel qui a été ordonné. Ça veut dire que ça va permettre à la juge d'avoir un profil de Philippe Benoît Lessard avant de rendre sa sentence. Et on parle de peines qui sont quand même assez importantes pour ce qui est de l'introduction par effraction
de nuit.
En pleine nuit. Mmh. C'est passible d'une peine de prison à perpétuité. Et dans le cas de l'agression sexuelle, la victime est de moins de 16 ans. Dans ce cas-ci, on parle d'une peine minimale d'un an de prison. Okay. Alors, retour devant le tribunal au moment de septembre prochain, finalement 13 septembre, ouais. pour fixer une date pour les observations sur la peine. Donc, okay. à ce moment-là, on en saura davantage.
Parle-moi aussi du retour en cours des trois accusés en lien avec l'homicide au centre-ville de Sherbrooke.
Il y a des accusations nouvelles qui ont été déposées aujourd'hui et qui sont liées au trafic de stupéfiants, donc en lien avec l'homicide de Félix Bergeron. Et l'avocat de Robert Sargent, Maître Vin Nguyen, ce qu'il dit, c'est qu'il attend de la preuve supplémentaire concernant son client, qui est le seul à être accusé d'homicide involontaire coupable. Et ce qui a filtré un peu, Martin, c'est que Félix Bergeron aurait reçu des coups de couteau au ventre et au dos, vraisemblablement après que les accusés soient entrés dans son logement et on tendait vers un mobile lié à une dette de drogue.
Ouais.
Ça reste à valider, mais c'est ce qui ressort.
Ouais.
Donc, il serait décédé des suites de ses blessures. Et en plus de cette accusation-là, Sargent fait face à des accusations de braquage de domicile, possession de cannabis, trafic de stupéfiants, comme William Pratt et Brendan Vaillancourt. Et les trois individus sont détenus. Et là, ce qu'on fait actuellement, ça se passe au palais de justice, c'est de trouver une date pour qu'ils subissent tous les trois ensemble leur enquête sur remise en liberté, parce qu'au départ, les avocats voulaient peut-être que ça se fasse de façon séparée.
Séparé, ouais.
Mais semble-t-il que non, ça sera ensemble pour les trois. Donc, il fallait trouver une date pour que les avocats au dossier puissent tous être disponibles. Donc, la date qui doit être déterminée là, au moment où on se parle ou à venir dans l'après-midi. Mais pour l'instant, ils sont toujours détenus, en fait, depuis leur arrestation, leur comparution, ils sont derrière les barreaux.
Il y a aussi un présumé trafiquant de drogue qui subissait aujourd'hui son enquête sur remise en liberté.
Il s'agit de Richard Saint-Pierre. On vous en a parlé cette semaine. Lui, il était arrêté par les policiers de Sherbrooke en lien avec une infraction au code de la route.
Oui,
et il avait un sac dans son véhicule, un sac à dos ouvert dans lequel il y avait 130 comprimés de méthamphétamine, 13 sachets de crack, 9 sachets de cocaïne et 950 $ d'argent comptant. Alors, beaucoup de stupéfiants dont il était en possession. Donc, l'accusation portée contre lui, c'est possession dans le but d'en faire le trafic. Et aujourd'hui, c'était son enquête sur remise en liberté. Lui, il travaille dans le secteur de la construction. Il a un problème de cocaïne, de consommation de cocaïne. Et ce qu'il a dit au juge Conrad Chapdelaine, c'est qu'il veut garder son emploi. Il veut régler son problème de consommation de drogue. Et évidemment, là, s'il y a une thérapie, il ne pourra pas garder son emploi. Bref, le juge Conrad Chapdelaine va rendre sa décision lundi, à savoir s'il le remet en liberté ou non. Mais voilà, donc une problématique qui est reconnue par l'accusé.